Et comme prévu, nous sommes en direct avec le docteur Atman Lorabi, qui est psychiatre, psychothérapeute et secrétaire général de l'Association marocaine de psychiatrie psychodynamique, pour parler aujourd'hui du syndrome de l'imposteur. Docteur Atman Lorabi, bonjour et merci d'être parmi nous aujourd'hui.
Tout le plaisir est pour moi. Bonjour Karima, bonjour Salma, et je salue l'ensemble des auditrices et auditeurs.
Bonjour docteur.
Alors docteur, en premier lieu, quand on parle du syndrome de l'imposteur, ça veut dire quoi ?
Alors, le syndrome de l'imposteur, qu'est-ce que ça n'est pas d'abord ? Alors, ça n'est pas une maladie. Ce n'est pas une maladie mentale qui figure dans les classifications des maladies ou des troubles psychiatriques. Et ça n'est pas quelque chose de peu fréquent, c'est quelque chose d'extrêmement fréquent parce que il y a des chiffres aux alentours de 70%, donc concernant donc la survenue de ce syndrome ou de ce complexe. Et ça consiste, ce syndrome consiste en le fait à ne pas reconnaître sa réussite, notamment et surtout d'un point de vue professionnel, malgré des signes évidents et des signes patents de succès, et surtout le fait de se sentir illégitime dans la place qu'on occupe et donc en conséquence d'avoir peur d'être démasqué. Ça, c'est un petit peu la définition globale de qu'est-ce que c'est. Alors, il faut savoir que c'est quelque chose qui a été décrit assez récemment, à la fin des années 70, dans un setup initialement exclusivement professionnel. Je le disais, c'est quelque chose dont on va parler principalement donc au travail, pour les personnes qui occupent des postes à responsabilité, des personnes qui sont nouvellement recrutées ou qui sont nouvellement promues. Pour la petite histoire, initialement, c'est un syndrome qui avait été décrit chez les femmes. La première étude qu'il y a eu, c'était une étude fin des années 70 sur l'échantillon de femmes brillantes, diplômées, qui occupaient de bons emplois, et puis qui avait décrit, donc pour la première fois, ce pattern, parce que plutôt que de dire que c'est un syndrome ou que c'est quelque chose de maladie, on le définit davantage comme étant un épisode transitoire, un épisode psychologique transitoire qui va accompagner la personne lors de moments clés, j'en parlais tout à l'heure, donc une embauche, une promotion, etc. Et donc au début c'était lié aux femmes. Ensuite, avec la multiplication des études, on s'est rendu compte que ça n'était pas exclusivement lié aux femmes, très très loin de là, que ça intéressait également la gente masculine, que ça intéressait peut-être les minorités qui sont un peu sous-représentées dans des hauts postes, que c'est très fréquent chez les étudiants, c'est très fréquent chez les créatifs, c'est très fréquent chez les gens qui ont une brillante carrière. Bref, c'est quelque chose qui peut apparaître chez n'importe qui va avoir un enjeu de performance. C'est très important. Quand on parle de syndrome de l'imposteur, c'est quelque chose qui est lié à l'anxiété de performer, d'être à la hauteur, de réaliser beaucoup de choses, d'abattre beaucoup de travail, etc. Et donc, une fois qu'on s'est rendu compte que c'est quelque chose qui peut atteindre tout le monde, on a commencé aussi à décrire des mécanismes psychologiques communs. C'est-à-dire que la plupart du temps, les personnes qui en souffrent, ce sont des personnes qui ont une faible estime de soi, une faible confiance en soi, une faible capacité à s'affirmer, mais surtout qui ont ce qu'on appelle des biais cognitifs, c'est-à-dire des manières particulières de réfléchir, mais qui ne sont pas concordantes à la réalité. Alors, notamment le biais d'attribution, c'est-à-dire que les personnes qui ont ce syndrome ont tendance à mettre en lien leur succès avec plutôt un facteur chance ou un facteur hasard ou un facteur externe, c'est-à-dire heureusement que j'ai écouté un tel qui m'a conseillé de faire ça ou qui m'a conseillé de faire ceci. Et puis quand c'est un échec, eh ben la personne, elle s'attribue l'entièreté de la responsabilité de l'échec. Voilà, donc c'est une modalité particulière parce que on est constamment dans un succès qui n'est pas le nôtre et un échec qui est purement le nôtre. Et c'est quelque chose qui va causer une très 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 forte anxiété chez les personnes qui en souffrent, une anxiété donc qui va se manifester tous les jours, puisqu'on parle de l'environnement du travail, et qui va possiblement conduire à un ensemble de conséquences qui sont négatives pour la personne. C'est-à-dire que on aura soit une tendance mais à se tuer au travail, parce que bon, il faut qu'on démontre qu'on est à la hauteur, il faut qu'on évite d'être démasqué, il faut pas demander de l'aide, parce que sinon ça veut dire que effectivement je leur donne des raisons de douter de mes capacités, et on imagine qu'on peut ça forme les conditions pour un burn-out, hein, on en avait parlé lors d'une émission précédente. Ou alors à l'inverse, c'est un désinvestissement du travail, c'est-à-dire que cette anxiété fait que la personne va travailler réellement en deçà de ses capacités, va se cantonner à des tâches peut-être en deçà de ses qualifications et de ses skills, et aussi aboutir à ce qu'on appelle la procrastination, c'est-à-dire le fait d'être perpétuellement en train de reporter les tâches qu'on a à faire parce qu'on ne s'estime pas assez performant. Donc, et à leur tour, ces conséquences-là au niveau du travail, que ce soit le désinvestissement ou le surinvestissement, j'en ai parlé un tout petit peu, ben ça peut mener à un burn-out, ça peut mener à des dépressions, ça peut mener à des conduites addictives, hein, parce que on cherche justement à prendre n'importe quoi qui permette de soulager cette peur constante qui nous accompagne tous les jours, étant donné que souvent le setup du travail, c'est un travail quotidien, hormis les week-ends. Donc, et ça peut donner, encore une fois, plein d'autres complications d'ordre psychologique ou psychiatrique, mais aussi d'ordre professionnel en termes de trajectoire de carrière, etc.
Et justement, vous parliez des gens qui sous-performent, voilà, quand ils sont à cause de ce syndrome. Pourquoi est-ce qu'elles sous-performent ? Est-ce que c'est pour elles une manière de rétablir entre guillemets la vérité, ou bien de se punir ?
Alors, c'est beaucoup plus lié à une peur de ne pas performer face à quelque chose qui va être jugé. Une tâche, voilà, qui va être un petit peu à l'avant, où on devra par exemple se réunir avec le supérieur hiérarchique pour lui livrer, je sais pas moi, un travail, un résultat de travail qui va être jugé en termes de performance. La personne se retrouve à éviter la situation anxiogène. Hein. Ça c'est vraiment une constante. On a tous une petite tendance à essayer d'éviter des situations qui nous font un peu peur. Et donc à partir de là, justement, c'est pas du tout une manière de se punir, mais in fine, justement, comme ça nous renvoie une image négative de nous-mêmes, ça ne fait qu'aggraver le syndrome de l'imposteur.
Et docteur Atman Lorabi, qu'est-ce qu'il faut faire, justement, si on subit ce syndrome de l'imposteur ou si on le ressent ?
Ah, c'est très important, merci pour votre question, parce que justement, alors si on le subit, moi j'ai envie de vous dire quand on le subit. Je le disais tout à l'heure, c'est très fréquent, c'est quelque chose qui va accompagner, mais vraiment n'importe qui. Alors surtout les premières années de travail, ou la première année de travail, ou quand on parle d'étudiants, c'est à chaque échéance, à chaque diplôme, à chaque concours, ce genre de choses. Il faut d'abord être conscient que c'est quelque chose qui arrive à presque tout le monde, hein, c'est une grande majorité de la population, et que il faut aussi prendre la mesure de ce que ça n'est pas. Ça n'est pas une maladie, c'est un moment qu'on pourrait qualifier de gros doutes sur ses capacités, de gros doutes quant à ce qu'on renvoie en termes d'image, de gros doutes concernant notre ego. C'est la vie qui nous l'apprend, mais c'est quelque chose qui doit nous amener à réfléchir sur la notion de performance de manière générale. Je le disais tout à l'heure, ce syndrome était plutôt décrit dans le cadre de la vie professionnelle, mais aujourd'hui de plus en plus, on le voit également dans le cadre de la vie privée. Suis-je un bon père ? Suis-je une bonne mère ? Est-ce que je mérite à ce point la valorisation et l'amour de mon conjoint ? Ce genre de choses. Et ça peut rapidement miner. Et donc, c'est très important de reprendre un petit peu, je dirais, j'allais dire, une réflexion autour de Qu'est-ce que c'est la performance? Qu'est-ce que c'est l'image de soi? Pourquoi est-ce que je dois toujours me comparer aux autres? Et bon, c'est une vraie réflexion, mais assez souvent, le fait de réaliser des choses et puis de voir que c'est une constante, que c'est pas juste, il y a eu peut-être de la chance la première année, mais après 5 ans, on va dire que le réalisme rattrape le plus souvent les gens parce qu'on se rend compte qu'on a réalisé des choses, qu'on a été dans la réussite, qu'on a, bien sûr, comme tout le monde, été dans l'échec. Mais ça aussi, c'est une autre réflexion. L'échec, c'est une nécessité pédagogique. On n'apprend pas en n'échouant pas. Et l'homme est par essence imparfait. Ça, ce sont des choses qu'on oublie, ou en tout cas, qu'on nous fait oublier peut-être aussi à travers notre éducation, quand on nous rabâche qu'on n'a pas le droit à l'erreur, qu'il faut toujours performer, qu'on peut toujours être les premiers de la classe, etc., etc. Bon, c'est une grosse réflexion à mener autour de ça, mais c'est quelque chose qu'on acquiert avec la maturité, au final.
Donc avec le temps.
Avec le temps et avec les réalisations. Le temps sans réalisation ne va pas permettre grand-chose.
Bien sûr. Bien sûr, docteur Atman Lorabi, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. C'était vraiment un plaisir de vous recevoir dans Matin Famille. Et on se retrouve donc jeudi prochain, Inch'Allah, pour un nouveau sujet.
Au revoir.
Au revoir à jeudi.